Je vous remercie de me faire à nouveau confiance. Et j'espère ne pas vous décevoir cet après-midi. J'ai beaucoup de choses à vous dire parce que la vie de Saint-Martin et la personnalité de Saint-Martin est vraiment d'une richesse exceptionnelle et trop mal connue en France, alors que c'est un des grands apôtres de la Gaule, donc de la France, bien entendu. Je voudrais commencer par un tout petit rappel biographique, savoir le situer, savoir ce qu'il fait en très gros. Ensuite, nous reviendrons sur certains détails. Il n'est pas gaulois, il n'est donc pas français d'origine. Il est né à Sabari en Pannonie. Sabari en Pannonie, ça ne vous dit peut-être rien. Qu'est-ce que ça veut dire dans le contexte actuel, dans la géographie actuelle? Ça veut dire la ville de Zombatelli en Hongrie. Bon. Donc, Saint-Martin, si bizarre que ça puisse paraître, n'est pas né entre Tours, Angers et Le Mans. Il est né en Hongrie. Et sa date de naissance, vers 316, date controversée mais probable. Sulpice Sévère, son premier biographe, dit qu'il est mort en 397 à l'âge de 81 ans. Par conséquent, ça le fait naître, évidemment, en 316. Son père était militaire, sans doute militaire romain. C'était un officier haut gradé, il avait un grade correspondant à peu près à général. Sa mère était sans doute pannonienne de l'époque. On ne connaît leur nom ni à l'un ni à l'autre. On sait simplement qu'ils étaient païens tous les deux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelait Martin. Martin, ça veut dire le petit Mars. Il avait été consacré au dieu Mars dans son enfance. Pardon. Il est obligé de s'engager dans l'armée à l'âge de 15 ans. Ceci à cause d'un édit de Constantin, c'était pour permettre à son père de toucher sa retraite. Simplement, les officiers qui avaient des enfants mâles devaient, pour pouvoir avoir leur retraite, obliger leur fils à s'engager, à prendre leur place, en quelque sorte, dans l'armée. Donc, voilà Martin, soldat, bien malgré lui, parce qu'il n'avait pas du tout envie. Et d'autant plus que dès l'âge de 10 ans, alors que son père était en garnison à Pavie et que lui aussi s'y trouvait, il avait connu le christianisme, il y avait beaucoup de pèlerins qui revenaient d'Orient, il avait voulu se faire baptiser, mais que l'évêque du lieu n'avait pas voulu le baptiser, tout simplement parce que ses parents ne voulaient pas. Et il ne voulait pas aller contre la volonté de ses parents. Donc Martin s'en va, il s'en va jusqu'à la capitale de l'Empire d'Occident, qui n'est pas Rome à l'époque, qui est Trèves, sur la Moselle. Et là, il suit les cours de l'école de cavalerie, donc il devient un jeune officier, d'abord élève officier, puis officier, un jeune officier aguerri, très fait à la vie très dure, et le voilà à l'âge de 18-19 ans environ, en garnison à Amiens. Amiens, où il est nommé circuiteur, c'est-à-dire chargé de faire des patrouilles vers la frontière, vers les frontières germaniques, pour vérifier s'il n'y a pas trop de Germains qui s'infiltrent en douce, sans demander l'autorisation et sans passeport. Bon. Vous voyez un petit peu l'ambiance. Et c'est là, au retour de l'une de ses patrouilles, que, rentrant dans Amiens, il rencontre, c'est l'épisode célèbre, souvent le seul épisode que l'on connaisse de la vie de Saint-Martin, il rencontre un pauvre, il fait très froid, il rencontre un pauvre qui est à moitié nu, et il déchire d'un coup sa grande cape, son manteau qui s'appelle une chlamyde, et il lui en donne la moitié. Et dans la nuit qui suit, en rêve ou en réalité, on ne sait pas très bien, il aperçoit le Christ lui-même qui lui apparaît, qui est recouvert de ce manteau et qui dit « Martin, qui n'est pas encore baptisé, m'a revêtu de ce manteau ». Voilà donc le premier épisode très célèbre et souvent le seul que l'on connaisse de Saint Martin, de la vie de Saint Martin. Presque aussitôt après, il se fait baptiser. Il n'a pas tout à fait 20 ans. Et il demande, il profite de l'occasion où il y a les Alamans déjà qui menacent de traverser le Rhin vers l'actuelle ville de Worms. Sa garnison est envoyée là-bas et l'empereur s'y trouve. Quel empereur ? On ne sait pas très bien. Je vous ai marqué sur votre feuille que c'est l'empereur Constant Ier qui s'appelait Julius. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Certains disent que c'est Constantin II, certains disent que ce sera l'empereur Julien beaucoup plus tard. Oh, on s'en moque un peu. Ce qui est important, c'est que c'est là qu'il demande, il voit l'empereur et il lui demande aussitôt son congé. Ça faisait assez mal, c'était la veille d'une bataille. C'était pas très adroit de sa part. Et l'empereur ne refuse de lui accorder comme ça. Il lui dit, écoute, si tu veux, laisse-moi absolument sans armes, je vais me porter au devant des Alamans, simplement avec un crucifix, et tu verras ce qu'ils vont faire. L'empereur lui dit, écoute, tu es fou. Passez-moi l'expression, ce que dirait un général actuel, je te fiche en tôle, ce qu'il a fait. Donc, prison, pendant ce temps-là, on verra bien ce que tu feras demain. Martin passe la nuit en prière, et le lendemain, à la grande surprise de tout le monde, les Alamans passent le Rhin, mais pas du tout pour livrer bataille, pour se soumettre et pour capituler. Donc la bataille n'a pas eu lieu. Alors là, l'empereur réfléchit un petit peu, il fait tirer Martin de prison et il lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est... Bon, je veux mon congé, eh bien ton congé, tu l'as, tu peux partir si tu veux. Et merci. Parce que l'empereur avait compris qu'en fait, Martin, comme ça, simplement par ses prières, lui avait évité une bataille. Il retourne à Trèves, c'est là qu'il rencontre Athanase, et c'est là qu'il se met au service de l'évêque du lieu qui s'appelait Maximin. Et son rêve, le rêve de Martin, que pratiquement il n'a jamais pu réaliser, ou très rarement pu réaliser, c'était de vivre tout seul, comme un moine du désert, comme un père du désert égyptien. Alors il demande à Maximin, donne-moi un endroit où je pourrais me retirer et où je pourrais mener une vie d'ascète, une vie... Ah non, 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 surtout pas. Tu es trop jeune, tu... Bon, tu restes à mon service, je t'ai là, c'est très bien, et... Tout ira bien comme ça. Et d'ailleurs, Athanase, qui est là, lui dit, il a tout à fait raison, sois un ascète, ne te marie pas, ne te mêle pas aux autres, mais reste là, dans la ville et au service de ton évêque. Fort bien. Maximin, qui était poitevin, bien qu'évêque de Trèves, veut revoir son pays natal, se sent vieux, veut revoir son pays natal avant de mourir. Il dit à Martin, allez, tu m'accompagnes, je m'en vais à Poitiers. Martin dit, d'accord, je te suis, nous allons à Poitiers. Et effectivement, à Poitiers, voilà Maximin qui meurt, et Martin se dit, je n'ai plus de raison de retourner à Trèves, qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Je suis bien à Poitiers, j'y reste. Et il y fait connaissance d'un très récent converti, un philosophe, qui s'appelle Hilaire. Qui sera le futur saint Hilaire. Cet homme est marié, mais il se sent appelé à la vocation. Avec l'assentiment de son épouse, il est marié, père de famille, avec l'assentiment de son épouse, il dit, eh bien, ça y est, je vais me faire ordonner prêtre. Et tant pis, bon, nous vivrons séparés. Et peu après, Hilaire est élu évêque de Poitiers. Et Martin reste à son service. Mais Martin est obligé, reçoit la visite, dit-on, d'un ange, qui lui dit, va donc voir tes parents en Pannonie. Ils se sont retirés, ils ont pris leur retraite, ils se sont retirés là-bas. Ah bon, eh bien j'y vais. Et le voilà parti. Il les trouve là-bas, il convertit sa mère, mais n'arrive pas à convertir son père. Il est persécuté par les Ariens, qui sont très nombreux là-bas. Il se retire de Sabarie, il s'installe à Milan, où tout aussitôt il y a une quantité de jeunes hommes qui veulent mener sa même vie d'ascète autour de lui. Même tableau, les Ariens de Milan le pourchassent. Bon, écoute, on en a assez. Les Ariens sont partout, et ben je vais me trouver une île déserte. Et avec un seul prêtre, qui est là, lui, Martin n'est pas encore prêtre à ce moment-là, il s'en va jusqu'à Gênes. Là, il demande, est-ce que par hasard, dans les environs, il y aurait une île qui n'appartient à personne? On lui dit, oui, oui, il y a l'île qui s'appelle Gallinaria. Elle s'appelle Isola d'Albengo, maintenant. Si tu veux y aller, tu t'y installes, très bien. Eh bien, on y va. Il s'y installe quelques années, plusieurs années. Alors là, il a réalisé sa vocation, mais ça ne durera pas longtemps, sa vocation de vivre en ermite tout seul, ou presque tout seul, puisqu'il a un prêtre à côté de lui. Mais c'est tout. Et de vivre dans la prière. Et puis, pendant ce temps, Hilaire de Poitiers se fait lui aussi persécuté par les Ariens. Il est exilé dans l'actuelle Turquie. Ce n'est pas la porte à côté. Et puis Hilaire ne se démonte pas. Là-bas en Turquie, il y avait aussi beaucoup d'Ariens. Et il faisait beaucoup de propagande contre les Ariens à Poitiers. Il en fait encore plus contre les Ariens là-bas. Décidément, les empereurs d'Orient disent « Il y a quand même moins d'Ariens en Occident, il fera moins de mal là-bas, réexpédions-le dans son diocèse. » Voilà Hilaire qui revient, et je ne sais comment, Martin l'apprend. Martin dit « Bon, Hilaire, je me suis mis à son service, c'est mon ami, c'est mon maître, je retourne à Poitiers. » Je retourne à Poitiers, mais en passant par Rome, parce qu'il croyait qu'Hilaire était passé par Rome. Finalement, il va courir après lui pendant assez longtemps, mais finalement, il le retrouvera à Poitiers. Et là, il lui dit, voilà ma vocation, je viens de quitter mon île déserte pour toi, maintenant donne-moi un petit terrain où je puisse continuer ma vie d'ermite. Hilaire lui dit, bon ben voilà, un petit terrain là près du Clain, à côté de Poitiers, ce sera le monastère de Ligugé. Je dis le monastère de Ligugé parce que Martin ne peut pas rester seul pas plus d'un mois ou deux. Tout aussitôt, il arrive des gens qui viennent le voir, qui viennent l'écouter, qui viennent lui demander conseil et qui veulent rester autour de lui. Alors, sans le vouloir, Martin va fonder un monastère. Et ce sera pratiquement le premier monastère d'Occident, le monastère de Ligugé. C'est un monastère qui est toujours en vie à l'heure actuelle. C'est donc, disons, le plus vénérable des monastères français, puisqu'il a été, fondé par Saint Martin lui-même, et que c'est le premier. Et c'est là qu'il va y avoir le premier de ces grands miracles, le miracle de la résurrection d'un catéchumène, suivi d'ailleurs très peu de temps après par la résurrection d'un suicidé. Il est élu en 371 évêque de Tours, grâce à un stratagème des Tourangeaux, parce que lui, il ne voulait pas en entendre parler, il ne voulait même pas être prêtre, mais Les Tourangeaux le font tomber dans un guet-apens, ils l'emmènent, ils l'enlèvent pratiquement, et c'est un véritable enlèvement qui a lieu. On le précipite à Tours, et puis, pendant que les autres évêques étaient réunis en concile là, pour élire le successeur, eh bien, on présente Martin et pratiquement on l'impose, malgré lui. Alors, évêque de Tours, oui. Ah oui, mais je voudrais bien continuer quand même ma vie d'ermite. Je suis évêque le jour, mais je voudrais bien être ermite la nuit. Donc la nuit, je m'en vais de l'autre côté de la Loire, à Marmoutier, et aussitôt après, même scénario qu'à Ligugé, les gens viennent lui demander conseil, les gens viennent, se groupent autour de lui, et à nouveau, fondation d'un nouveau monastère. D'ailleurs, Marmoutier signifie Mar, paraît-il en gaulois, signifie le grand, et puis Moutier, le grand monastère. Alors, qu'est-ce que je vais faire de tous ces moines? De tous ces moines qui mènent cette vie d'ascète, mais enfin, à quoi est-ce qu'ils peuvent bien me servir? À quoi est-ce que le bon Dieu veut que je les emploie? Eh bien, les campagnes, les villes sont chrétiennes, certainement, mais les campagnes sont païennes. Eh bien, allons-y, allons évangéliser les campagnes. Et alors, on va fonder des petits prieurés un petit peu partout dans la campagne, ici, là, avec 3-4 moines qui vont être là. Et Martin va toujours passer devant l'autre pour voir si les évangélisations progressent bien, si tout se passe bien. Et alors, de nombreux épisodes célèbres dont je vous parlerai tout à l'heure concernant son activité de missionnaire. Enfin, Martin fait 3 voyages à Trèves pour y rencontrer les empereurs. Valentinien Ier et Maxime, cette fois-ci ce sont des empereurs, c'est sûr que ce sont ceux-là qu'il a rencontrés, en particulier pour négocier à cause des priscillianistes, ces fameux priscillianistes dont je vous ai parlé ce matin, ces priscillianistes, ces hérétiques que l'empereur Maxime en particulier voulait faire exécuter purement et simplement, il voulait les faire massacrer. Martin est venu lui dire attention, pas si vite. Et c'est tout à fait sur la fin de sa vie, dans les dernières années de sa vie, que vient lui rendre visite un jeune avocat bordelais qui était veuf et qui voulait mener une vie de moine et qui vient lui demander des recettes, qui vient lui demander comment faire. Cet avocat s'appelait Sulpice Sévère, et c'est lui qui va être le premier biographe de Saint-Martin, parce que Sulpice Sévère a deux qualités. D'une part, il est très curieux, il fait parler Saint-Martin, il le fait parler beaucoup, et puis deuxièmement, une fois revenu chez lui, il écrit. Et il écrit un livre, plusieurs livres d'ailleurs, mais en particulier Une vie de Saint-Martin, qui deviendra un des best-sellers de l'époque et qui nous est conservé, Dieu merci, à l'heure actuelle. Par conséquent, cette vie de Saint-Martin, c'est à cause de Sulpice Sévère, grâce à Sulpice Sévère, que l'on sait tant de choses sur Saint-Martin, alors qu'il y a beaucoup de saints sur lesquels on ne sait presque rien ou sur lesquels on a simplement de vagues traditions. Il va mourir le 8 novembre 397 à Cande. Il avait fondé un petit prieuré à Cande et il apprend tout d'un coup que à Cande, c'était au confluent de la Loire et de la Vienne, il apprend que ses moines sont en train de se disputer, sont en train de donner le mauvais exemple. Il y va, il rétablit l'ordre et c'est là qu'il va mourir. Aussitôt, alors, grande dispute entre les gens de Poitiers et de Ligugé et ceux de Tours qui voulaient, l'un comme l'autre, se disputer les reliques de Saint-Martin. Et finalement, c'est encore un stratagème des Tourangeaux. Pendant la nuit, les Tourangeaux volent le corps de Saint-Martin et l'embarquent, pendant que les Poitevins, tout à fait par hasard, on se demande pourquoi, sont tous terrassés par un profond sommeil. Là, bon. Voilà, en gros, alors, très rapidement brossé, les principales étapes de la vie de saint Martin. Alors, 5 aspects essentiels, j'ai voulu dégager dans cette vie. Premier aspect, un aspect très peu connu, mais qui, je crois, est très important chez lui, c'est un grand mystique. Mystique, c'est-à-dire qu'il a des phénomènes extraordinaires, mais relativement peu connus à cause de la discrétion de Sulpice Sévère. On a cette expérience mystique du début de son apostolat qu'il a raconté, c'est l'apparition du Christ après l'épisode du manteau, après le partage du manteau. Mais par la suite, Martin a avoué avoir eu de très nombreuses apparitions, et excusez du peu, la Vierge Marie, Sainte Agnès, Sainte Thècle, Saint Pierre, Saint Paul, et son ange gardien avec lequel il converse à peu près tous les jours. C'est quand même pas mal. Et Sulpice Sévère lui-même raconte que lorsqu'il est arrivé à Marmoutier et qu'il a voulu voir Saint Martin, il a commencé par entendre une conversation et il s'est demandé quel était ce visiteur. Il a attendu à la porte et puis il a vu ensuite Martin ressortir tout seul. Tes visiteurs ne sont pas partis, mais si, ils sont partis. C'était ce Saint-Thècle et Saint-Agnès qui étaient avec moi et qui conversaient. Mais malheureusement, on aimerait en savoir plus. Il a été trop discret parce qu'on aimerait connaître les messages qui ont été donnés par ces personnages. Or là, on n'en sait strictement rien. C'est un laconisme exaspérant de Sulpice Sévère. On sait qu'après l'affaire des Priscillianistes, qui a été une des très grosses épreuves de saint Martin, parce que Martin, je vous raconterai pourquoi, s'est vu obligé de mentir à ce moment-là, mais oui, de mentir et devant tout le monde en plus, et bien un ange est venu le consoler précisément pour lui redonner courage, pour lui dire mais non, tu as bien fait, c'était la seule façon de t'en tirer, mais oui, bon. Mais il était vraiment découragé. Est-ce qu'on peut dire que les expériences mystiques de Martin ont été à l'origine de son action, ou penser le contraire? Est-ce que c'est son action qui a provoqué ces expériences mystiques? On n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une communication constante avec l'au-delà. En fait, il parlait avec le Seigneur probablement pas tous les jours, du moins il avait une prière, mais je parle conversation. Il y avait une prière constante, c'est-à-dire que saint Martin était un homme qui priait tout le temps, qui avait l'idée, qui avait le... Pas seulement l'idée, c'était un fait chez lui, sa prière était constante, sans arrêt, quoi qu'il fasse, il était en communication avec Dieu. Mais il y avait autre chose en plus. Il était exorciste. Exorciste, Hilaire voulait l'ordonner prêtre. Il a dit je veux être prêtre, et saint Martin ne voulait jamais. Probablement, il n'a probablement été ordonné prêtre que lorsqu'il est devenu évêque, mais on ne sait pas très bien. Ce que l'on sait, c'est que Hilaire l'a fait exorciste. Et on sait, alors, revers de la médaille, que Martin a été hanté par le démon pratiquement à partir du moment où il a été exorciste. Et son expérience du démon est très proche, lorsqu'on lit la vie du curé d'Ars, est très proche de celle qui est là avec le curé d'Ars. Il se sentait persécuté par le démon pratiquement tout le temps. Il a eu une rencontre physique avec lui lorsqu'il est allé voir ses parents près de Milan, lorsqu'il est passé vers Milan, là, il y a eu le diable, lui est apparu et lui a dit, ben, désormais, tu m'auras toujours à côté de toi ou tu m'auras toujours devant toi. Et il a bien tenu parole. Donc, on peut dire que Martin a été infesté, a été troublé toute sa vie par le démon lui-même, jusqu'à sa mort. On sait que sur son lit de mort, il a protesté encore et lui a dit, ah ben non, cette fois-ci, je t'ai assez vu, tu t'en vas. Et on a vu que c'était à lui que Saint-Martin s'adressait. Et on dit même qu'il a eu des discussions, non seulement il avait des conversations avec beaucoup de saints, mais on dit même qu'il en avait avec le démon. Et qu'il discutait ferme avec lui. En particulier sur la conduite de ses moines, le démon lui disait, mais tu as accueilli des criminels, tu as accueilli... Ce qui était vrai souvent d'ailleurs, dans ton monastère, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Et l'autre lui disait, il faut leur laisser leur chance. Je pourrais, si j'ai un petit peu de temps, je suis forcé de passer beaucoup de choses là-dessus, mais je vais vous raconter quand même un épisode, parce qu'il est très amusant, un épisode où le démon se manifeste à Saint-Martin et où Saint-Martin le dévoile. Un de ses moines, dans un prieuré un peu lointain, qui n'était pas exactement à Marmoutier, s'appelait Anatole. C'était un prieuré qui était dirigé par un autre saint, qui était Saint-Clair. Anatole, un beau jour, déclare à ses frères, « Vous savez, Jésus-Christ veut me faire une grâce spéciale. Il va me revêtir demain d'une robe particulièrement éclatante, parce qu'il paraît que je suis quelqu'un de très bien. » Et effectivement, le lendemain, on voit notre Anatole qui arrive... dans un vêtement éblouissant de blancheur, une étoffe que personne n'avait jamais vue auparavant, quelque chose de sensationnel. Saint-Clair lui dit, c'est pas tout ça, va te présenter comme ça à Saint-Martin. Ah non, j'en ai pas le droit. À Martin, monsieur, il ne pouvait pas dire ça. Non, j'en ai pas le droit. On me l'a mis. Pas question, tu y vas. Et... effectivement, il se présente, il l'envoie là-bas, il se présente devant lui, et à peine arrivé devant Saint-Martin, voilà l'habit qui disparaît, et notre pauvre Anatole qui se retrouve tout nu devant Martin. Et bon, c'était évidemment une tentation du démon, donc, pour lequel il a bien été pris. Il considère également... Martin, voilà une raison de son activité missionnaire. Il considère que les démons existent vraiment sous la forme des dieux païens. Les dieux païens ne sont pas des êtres purement imaginaires, ne sont pas de vagues statues, qu'on peut laisser, qu'est-ce que ça peut faire? Les dieux païens sont des démons, et Martin en a des expériences. Il racontera, par exemple, que Mercure est un démon particulièrement redoutable, que Jupiter, il est assez balourd, il n'est pas très dangereux, mais Mercure, attention à lui, il est dangereux. Cela explique les nombreux martyrs qui n'ont pas voulu sacrifier aux idoles. Sacrifier aux idoles, au fond, qu'est-ce que ça pouvait faire, Mais offrir un vague sacrifice devant une statue de pierre ou de bois, c'est sans importance, mais si, ça a de l'importance. C'est sacrifier aux démons. Donc, je crois qu'il y a une grande importance de Martin, une grande actualité de Martin, à ce sujet-là, sur la mystique et l'expérience des démoniaques. Parce que, effectivement, à l'heure actuelle, très nombreuses sont les chapelles, les sectes sataniques que l'on retrouve un peu partout. Et il y en a une en particulier, je vous invite à lire le livre de Losarmer intitulé « Les fils de la veuve » sur la maçonnerie, qui vous en apprendra beaucoup sur les croyances réelles des francs-maçons. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais il y a beaucoup à apprendre de ce côté-là.
Le titre, c'est ?«
Les fils de la veuve ».« Les fils de la veuve », le... Et puis, on peut lire aussi le 666 de Marc Dehm, le livre de Marc Dehm intitulé 666, qui est publié aux éditions du Rocher, je crois. Deuxième aspect de Saint-Martin, l'ascète. On le sait, dès l'âge de 10 ou 12 ans, Martin a été tenté par la vie érémitique. Son modèle, c'était les moines égyptiens, les pères du désert de l'Égypte. Et c'est ça qui le pousse à être chrétien, c'était vraiment sa vocation que pratiquement il n'a jamais pu assouvir. La vie de Saint-Martin, c'est une grande vocation ratée, si on veut, parce qu'il n'a jamais voulu faire, il n'a jamais pu faire ce qu'il voulait faire. Il ne voulait pas être soldat, il l'a été. Il ne voulait pas être évêque, il l'a été. Il voulait être ermite, il ne l'a pas été, ou très peu. Donc c'est Athanase qui lui dit au départ d'être ascète et non pas d'être ermite. Ensuite il va faire son séjour dans l'île de Gallinaria, puis il va fonder Ligugé et Marmoutier. Toutes les fois c'est pour s'isoler du monde, c'est pour vivre seul. Mais il s'est toujours produit que Dieu en a décidé autrement. À partir du moment où Martin s'installait quelque part, il y avait des foules qui accouraient. Et par conséquent, Martin, c'est un père du désert au milieu de la foule. Et ces moines, certainement, ont été reçus malgré lui. Certainement que Martin ne les a pas bien accueillis du tout, du moins au départ. « Ah, qu'est-ce que tu viens faire encore? Qu'est-ce que tu viens me gêner ?» Et c'est à force d'insistance que, bon, eh bien reste, eh bien reste. Bon. Et il avait, je vous le disais tout à l'heure, la méthode de la prière perpétuelle. Tous ses actes devaient être prière, mais il devait aussi constamment avoir sa pensée tournée vers le Seigneur. Saint Sulpice Sévère parle de la façon dont Martin se comportait, la persévérance dans ce qu'il avait décidé, et puis la juste mesure partout. Juste mesure qui ne veut pas dire mollesse, mais qui veut dire absence d'excès. Il dormait peu, il mangeait peu, juste ce qu'il fallait pour ne pas tomber d'inanition et de sommeil, parce qu'il était évêque le jour, hein, et la nuit il était moine. C'est-à-dire qu'on se demande un petit peu quand est-ce qu'il pouvait dormir. Je ne pense pas qu'il ait fait des macérations inhumaines comme certains saints l'ont fait, mais ce que l'on sait, c'est qu'il dormait sur un lit de cendre, il n'a jamais voulu d'autre lit que de la cendre, et que même à l'article de la mort, il n'a pas voulu en changer. Ses moines lui ont dit, oh, ben, puisque tu es si malade, accepte un bon matelas quand même. Ah non, 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 bon, c'est pas question, hein, surtout pas. Et voilà, mystique, ascète, c'est pour cela, c'est à cause de cela qu'il pourrait être thaumaturge, c'est-à-dire faiseur de miracles et guérisseur, et qu'il pourra être missionnaire, qu'il pourra agir dans le monde. Donc, Martin, on le considère plutôt comme un homme d'action. Oui, c'est vrai, c'est un homme d'action, ce n'est pas un érudit. Il a probablement très peu écrit, et de toute façon, même s'il a beaucoup écrit, on n'en sait rien, parce qu'on a perdu tout ce qu'il a écrit. Mais c'est un missionnaire, et un missionnaire parce qu'il est contemplatif. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait de la sœur Thérèse, patronne des missions. Pourquoi l'a-t-on faite patronne des missions? Ben, c'est précisément parce qu'elle était contemplative. Lui, en fait, il était les deux. Il était contemplatif et actif à la fois. Alors, troisième aspect de saint Martin, le thaumaturge. Thaumaturge, oui, Martin est auteur d'innombrables miracles. Je dis auteur, c'est un peu exagéré, parce que je sais bien, et il en était conscient lui aussi, que ce n'était pas lui qui accomplissait les miracles, c'est le Seigneur seul qui est capable de les faire. Mais quand même, Martin demandait un miracle et 9 fois sur 10, il l'obtenait. Et ça, quand même, il faut le faire. La plupart des miracles que nous avons relevés dans la vie de saint Martin, et Dieu sait s'ils sont nombreux, rassurez-vous, je ne vous les raconterai pas tous, parce qu'on en aurait pour des heures, mais la plupart des miracles de saint Martin, et d'ailleurs, même dans mon livre que vous avez là, je ne les ai pas tous racontés, il en faudrait trop, la plupart, ce sont des miracles de guérison rapide. Nous ne considérons pas comme miracle ces exorcismes. On sait que saint Martin a commencé par être exorciste. Et effectivement, il a exercé son métier jusqu'au bout et il a chassé des démons très souvent dans des cas de possession diabolique. En fait, c'était pour lui-même qu'il était le plus mauvais exorciste. Parce que il était non pas possédé du démon, bien sûr que non, mais il était, disons, infesté par le démon, parce que le démon ne le laissait pas tranquille un seul instant. Mais il y a quand même quelque chose d'extraordinaire, 3 cas de résurrection de mort. Non pas une seule fois, et on aurait pu dire c'est un mort qui n'était pas tout à fait mort, il était en état de catalepsie, hein, mais 3 fois, c'est beaucoup. Mais on y reviendra, mais il y a d'autres cas plus particuliers qui nous intéressent. Alors la question pour les miracles. Premièrement, est-ce que ces miracles étaient nécessaires? Dans ce cas, origine, moyen et but de ces miracles. Alors, nécessaire, la plupart de ces miracles sont des miracles caritatifs, des miracles de charité. Ils voient des gens très malheureux et ils leur donnent le moyen de sortir de leur malheur. Par exemple, un paysan atterré par une sécheresse épouvantable qui voit son champ grillé, il fait jaillir une source dans son champ. Bon. C'est un des miracles qui est raconté par Sulpice Sévère. On a un premier miracle lors de sa demande de congé de l'armée. Il l'obtient par sa prière d'une nuit entière. Il obtient qu'une bataille n'ait pas lieu. En fait, il y a une insistance à vaincre la volonté divine. Insistance pour obtenir ce qu'on désire. Ici, dans ce fameux miracle de Worms, c'est d'une part pour épargner des vies humaines, mais d'autre part, pour permettre de commencer un apostolat. Et il va voir l'empereur Valentinien à Trèves, Valentinien Ier. Valentinien, qu'est-ce qui vient m'embêter, je ne veux pas le recevoir. Il ne va pas rester devant sa porte, tambouriner, taper, non. Il va se retirer sur le bord de la Moselle, se couvrir de cendres et rester en prière pendant 8 jours. Au bout de ce temps-là, il retourne voir Valentinien et comme par hasard, Valentinien veut bien le recevoir. Et il obtient la grâce de prisonnier qu'il voulait faire libérer. Et en prime, voilà que Dieu lui obtient une petite plaisanterie. Valentinien le reçoit, mais le reçoit à contre-cœur et ne veut pas se lever devant lui, ne se veut pas se lever de son trône lorsqu'il rentre dans la salle. Et puis voilà que tout d'un coup, Valentinien est obligé de se lever de son trône brusquement parce que il chauffait. Il chauffait tellement que ça le brûlait, là où vous pensez. Et puis voilà. Donc, miracle plus un petit quelque chose. Donc, il y a un peu d'humour dans certains miracles de Saint-Martin. Donc, dans ces deux cas-là, l'origine, c'est un désir personnel. Je veux mon congé, je veux voir l'empereur coûte que coûte. Mais les moyens, quels sont les moyens ? La prière, prière instante, prière longue, le jeûne, la pénitence, et puis les buts. Les buts, c'est l'évangélisation ou la grâce des prisonniers ou des condamnés, ce qui est le fait avec Valentinien. Les résurrections, j'y viens. Une de ces résurrections a été racontée en détail par Sulpice Sévère. C'est celle du catéchumène de Ligugé. Martin était parti, comme ça lui arrivait souvent, pratiquement. Il a tellement voyagé qu'on se demande quand il était dans son diocèse. Mais enfin, là, c'était même avant d'être évêque, puisque c'était à Ligugé que ça s'est passé. Il était parti pour... on ne dit pas pourquoi. Et pendant son absence, un catéchumène meurt. Et il n'est pas baptisé. Quand il revient, les moines lui disent, c'est terrible, un tel, on ne sait pas son nom, je l'ai appelé Libère dans mon livre, mais enfin, il s'appelle comme on voudra, ça n'a pas d'importance. Il est mort. Il n'a pas été baptisé, c'est très ennuyeux. Martin dit, retirez-vous tous, laissez-moi seul avec lui. Et Sulpice Sévère raconte l'histoire, Martin prend l'attitude d'Élie lorsqu'il ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, c'est-à-dire qu'il s'étend sur le cadavre et qu'il prie pendant très longtemps. Et on dit que sa prière, là, a duré 2 heures. 2 heures, c'est long quand on a affaire à un cadavre. Et caractéristique de cette résurrection, donc, la foi, en fait, prime le bon sens. Parce que vous et moi, probablement, hein, je n'ose pas le dire, voyant les choses telles qu'elles sont, aurait dit, eh bien, il est mort, on n'y peut rien, c'est comme ça. Dieu l'a voulu comme ça, et puis c'est tout. Mais lui... il croit qu'il peut être rappelé à la vie, non pas pour avoir quelques années de plus, mais simplement pour pouvoir être baptisé et gagner la vie éternelle. Et effectivement, il va le ressusciter, le baptiser tout de suite, et l'autre ne va pas mourir à nouveau très peu de temps après. Non, au contraire, il vivra de longues années. Et c'est lui qui se chargera de colporter son histoire parmi tous. Il dira, c'est moi le ressuscité, c'est moi que Martin a ressuscité d'entre les morts. Mais oui, j'étais déjà devant le Seigneur. Mais oui, chacun... Et c'est lui-même qui l'a raconté à Sulpice Sévère. Donc, la foi, la pénitence, la patience, la solitude... confiance absolue dans le Seigneur et pas de découragement. L'autre résurrection, c'était un suicidé. Un esclave qui s'était suicidé. Eh bien, on sait pourquoi elle est faite, pour éviter la damnation d'un pécheur. Mais sur les circonstances, on n'a aucun détail. Sulpice Sévère se contente de signaler le fait et c'est tout. Enfin, dernière résurrection, c'est un très jeune enfant. Alors cette fois, c'est une fois évêque de Tours, et c'est probablement à Vendôme, une résurrection d'un jeune enfant au milieu d'une foule de païens venus pour l'acclamer, parce que même les païens le considéraient comme un très grand homme et venaient le voir, venaient l'entendre, venaient l'écouter. Dès qu'il passait quelque part, il remuait les foules. Et cette fois, la résurrection s'opère à la suite d'une très courte prière, et aussitôt la foule, voyant ça, demande le baptême. Donc, le motif, la charité, la pitié, le moyen, la prière, le but, l'évangélisation. Et c'est une démarche les plus fréquentes. Les guérisons, maintenant. Les guérisons, elles se font presque instantanément grâce à certains gestes, à Paris, enfin à Lutèce, là où se trouve maintenant le conservatoire des arts et métiers, qui était l'abbaye Saint-Martin-des-Champs. Il guérit un lépreux en faisant le fameux baiser au lépreux. À Trèves, il guérit une paralytique. À Chartres, il guérit une muette. Mais ces signes sont accompagnés de prières et se font le plus souvent après des déclarations de modestie. Il dit « Non, je ne peux pas, non, je ne crois pas, je ne me sens pas assez fort pour cela, comment voulez-vous que je m'y prenne ?» etc. Et le plus souvent, c'est en petit comité, mais quand il le peut, il essaye, il s'efforce que le miracle ne lui soit pas attribuable à lui seul. Par exemple, à Chartres, lorsqu'on lui présente cette fille, donc il dit à la foule de se retirer, mais il a deux confrères, évêques également, auprès de lui, il leur dit « Restez et priez avec moi pour la guérison de cette fillette. » Ensuite, il lui verse lui-même de l'huile dans la bouche, et c'est à ce moment-là que la fillette, devant son père, il n'avait gardé que son père comme auditoire, que devant son père, la fillette se met à parler, et son père dit « Ah, c'est la première fois que je l'entends prononcer un son. » Et il dit « Ah, ben, nous avons, nous, c'est-à-dire nous trois, les trois évêques réunis, nous avons réussi à obtenir ce miracle du Seigneur. » Donc, il évite comme ça la tentation de l'orgueil. Il reste les miracles obtenus dans le contexte d'une action missionnaire. Alors là, souvent, il s'agit d'obtenir la destruction de temples, le renversement d'idoles pour parvenir à la conversion. Le miracle le plus célèbre, c'est celui de l'arbre. Un arbre dédié à Cybèle, à la déesse Cybèle. Martin parvient à persuader les villageois d'abattre cet arbre pour qu'il ne soit plus l'objet d'un culte. Et certains des villageois lui disent « Oui, mais attention, tu vas te mettre dessous, juste à l'endroit où l'arbre va tomber. » Et ils le ligotent et ils le mettent là, à l'endroit. Et ils commencent à couper l'arbre. Et effectivement, l'arbre penche, craque, tombe, et au moment même où il allait toucher Martin, hop, le voilà qui se redresse et qui tombe de l'autre côté, presque sur les bûcherons qui étaient en train de l'abattre. Le temple incendié dont le feu s'était communiqué aux maisons voisines, mais Saint-Martin monte sur le toit d'une maison et parvient à éteindre l'incendie de la maison, pas du temple. Quelquefois, par la seule force de la prière, le grand temple d'Amboise, que tout le monde considérait comme indestructible, c'est la foudre qui le détruit à la suite d'une de ses prières. Donc, on le voit, les miracles de Martin, la plupart, ce sont des miracles évangéliques. Double but, action caritative, directe, sur des malheureux, mais surtout valeur d'exemple. pour obtenir des conversions. Mais, grande différence, lorsqu'on voit les miracles de Jésus racontés dans les évangiles, il y a une différence évidemment énorme. Martin n'est qu'un homme. C'est-à-dire que les miracles, Martin doit les arracher au ciel. Il doit les arracher par la foi, par la pénitence, par la prière, contre toute logique, contre toute raison. Donc, actualité de Martin, actualité de Saint-Martin dans ce monde actuel qui ne croit plus aux miracles, qui ne veut plus de sacrifice ni de pénitence, qui ratiocine parce qu'il a perdu la foi. Quatrième aspect, j'en viens au chapitre certainement le plus connu de l'action de Saint-Martin, c'est son action missionnaire. Martin, le missionnaire des campagnes gauloises. C'est l'essentiel de son action, mais attention, une fois qu'il a été sacré évêque, pas avant. Avant d'être évêque, il n'était pas missionnaire. Sa vocation, c'était celle de la contemplation. Donc, homme d'action, mais homme d'action par la force. Et on a là, entre les deux amis, Hilaire et Martin, l'évêque de Poitiers et l'évêque de Tours, on a une sorte de complémentarité. Hilaire, c'était le grand savant, le grand philosophe, le grand écrivain, le docteur. Martin, c'était l'homme de terrain. Il prêche, non pas par l'écrit, mais par la parole, par l'exemple, par la persuasion, par le miracle, par la brutalité. Mais oui. Il n'avait pas de cas de conscience, c'était un missionnaire casseur. Et c'est quelqu'un qui n'aurait pas participé à une réunion d'assises, par exemple, où il aurait dit « tout le monde est bon, tout le monde est gentil ». Non, certainement pas, ça ne pouvait pas être possible. Il ne pouvait pas penser que les païens, les hérétiques, se sauvaient par leur religion. Mais il pouvait penser probablement que Dieu, dans son infinie miséricorde, pouvait les sauver malgré leur religion. Il y a là une différence. Donc, ce que fait Martin avec les païens, c'est le renversement des idoles, la démolition ou l'incendie des temples païens. Et on ne voit même pas chez lui, je n'en ai pas ayant lu la vie de Saint-Martin par suspice sévère, on ne voit pas d'exemple où il est christianisé d'anciens rites. Non. Il fait table rase des anciennes religions, des hérésies, et on construit de nouvelles églises. Alors, dans un livre très bien documenté, d'ailleurs, que je ne voudrais pas critiquer, qui est un livre sur Saint-Martin qui vient de paraître et qui, comme par hasard, est paru à Tours sous la triple signature de Monseigneur Honoré, Michel Laurencin et Don Houry. J'ai lu cette phrase, le vandalisme de Saint-Martin. Oui, et effectivement, si... On peut se demander pourquoi, alors que les Gaulois, contrairement à ce que l'on raconte, étaient une nation très civilisée et très, très savante, pourquoi il reste si peu de monuments de l'art gaulois. Pratiquement, nous n'avons rien, si quelques vestiges, mais très peu de choses. Et on peut se dire que c'est certainement Saint-Martin qui en est la cause, pour une part, pour une partie. Parce que, effectivement, il a beaucoup démoli. Mais une observation, quand même, c'est que Saint-Martin n'est pas un conquistador. C'est-à-dire que c'est un évangélisateur, mais un évangélisateur sans armes. Les populations visitées pouvaient les repousser. Il n'avait aucune défense, pouvait les tuer. Ils ont essayé de le faire plusieurs fois. Un païen s'est un jour précipité sur ce vers Saint-Martin, il a voulu l'étrangler. Saint-Martin s'est laissé faire, mais l'autre n'y est pas arrivé. Il est resté les mains autour du cou de Saint-Martin, il n'a pas arrivé à serrer, puis il est tombé, et il est tombé épuisé. Et il n'a pas pu arriver jusqu'au bout. Bon. Donc, on peut donc conclure qu'avant toutes ces destructions, il y avait une approche de persuasion. C'était un très lent travail, accéléré parfois par un miracle, parachevé par les destructions d'idoles et de temples, et suivi de construction d'églises. Donc saint Martin ne plaisantait pas avec les idoles. Pour lui, les idoles, c'était plus que des objets de pierre ou de bois, c'était des démons, je vous l'ai dit tout à l'heure, et l'évangélisation, donc, se place dans le cadre beaucoup plus général de la lutte contre le diable. Actualité de cette action missionnaire, eh bien oui, elle est actuelle plus que jamais. Les missionnaires actuels, enfin beaucoup de missionnaires, je ne veux pas généraliser, Dieu merci, mais beaucoup de missionnaires actuels sont si respectueux des autres que non seulement ils épargnent leurs temples et leurs idoles, mais en plus ils ne tentent même pas de les évangéliser, parce qu'ils sont persuadés qu'ils font leur salut tout aussi bien dans leur fausse religion. Alors, bien sûr, Martin n'a pas connu l'islam pour cause. Il n'a pas connu le protestantisme pour cause également, mais il a connu des hérésies et des religions tout aussi importantes que l'islam et le protestantisme. Il a même été lui-même persécuté de façon violente par les Ariens. Il a reçu une énorme volée de coups de bâton en plein forum à Sabari pour l'obliger à déguerpir, là où il avait été voir ses parents. À Milan également, mais pour lui, pas question de composer. Question de vie ou de mort éternelle pour ceux qui sont dans l'erreur. Donc, pour lui, pas de droit à l'erreur. L'erreur est haïssable, l'erreur est à proscrire, on n'y a pas le droit. Et les conversions, elles, par contre, ne doivent pas être obtenues par la force. Et on va arriver à notre dernier paragraphe, elles doivent être obtenues par la persuasion, jamais par la persécution. Alors notre dernier point, c'est la fameuse affaire des priscillianistes, là où Martin a dû intervenir personnellement dans une affaire de persécution d'hérétiques. Martin, homme d'action dans le monde. Dans le monde, c'est, j'entends, auprès des grands. Généralement, il fuyait les honneurs, il fuyait les réceptions officielles. Un jour qu'il passait aux environs de Clermont-Ferrand, une délégation du Sénat de Clermont est venue le trouver pour l'inviter, un vin d'honneur, réception officielle, de grands discours, etc. Mais non, surtout pas de ça. Oh, mais nous avons beaucoup de malades à guérir. Nous les guérirons de loin. Je les guérirai de loin. Ne vous inquiétez pas. Et Martin est passé sans rentrer dans Clermont-Ferrand. Et effectivement, les malades ont été guéris. Mais il a évité la réception officielle. Donc, ne recherche pas l'honneur pour l'honneur, mais il le recherche quand même souvent dans un but utilitaire. Un exemple, il est très bien reçu une première fois par l'empereur Maxime. Et sa femme tient, l'impératrice elle-même, Héléna, tient à le servir à table et ensuite à se coucher à ses pieds dans la position de Marie-Madeleine, à lui essuyer les pieds avec ses cheveux, et à écouter ses paroles. Et saint Martin ne lui souhaite pas du tout de faire ça. Il la laisse. Il lui dit, effectivement, J'ai devant moi l'exemple de deux grandes saintes, Sainte Marthe qui servait Jésus, et Marie-Madeleine qui l'écoutait. Mais alors, il s'agissait de négocier l'indulgence auprès des priscillianistes, qu'ils voulaient convertir au lieu de les faire massacrer. Et effectivement, alors il y a eu toute une histoire. Le priscillianisme était né en Espagne, et il y avait un priscillien qui avait été promu évêque d'Avila, s'il vous plaît, avait été arrêté, se trouvait à Trèves, où il s'apprêtait à être jugé. Et Saint Martin a demandé à l'empereur de ne pas faire couler le sang, mais de convertir, ou de lui donner la grâce de convertir. Et l'empereur a accepté tout de suite à sa demande. Seulement, un évêque espagnol nommé Itas est intervenu par la suite, une fois Martin parti, contre Priscillien, et finalement Priscillien a été jugé, condamné, exécuté avec 5 ou 6 de ses complices. Voilà Martin qui revient à Trèves 4-4 et qui ne veut pas laisser passer l'affaire comme ça, qui revient pour voir l'empereur, et l'empereur ne sait pas trop quelle attitude avoir avec lui. Oui, bon, j'ai manqué à mes paroles, mais il a été jugé, il fallait bien tenir compte de beaucoup de choses, etc. Seulement, alors Martin, il lui dit, et les autres, les priscillianistes? Les autres, je vais envoyer des troupes en Espagne, où ils sont les plus nombreux, et puis ils vont tous passer au fil de l'épée. Ah non. Si tu veux éviter ça, c'était ce que j'avais décidé, mais si tu veux l'éviter, réconcilie-toi avec Itas. Et dis-lui que tu es en pleine communion de pensée avec lui. Sinon, j'envoie des troupes là-bas, et ça y est, tous les priscillianistes seront massacrés, comme ça on n'en entendra plus parler. Non, il faudrait mieux les convertir quand même. Bon, alors réconcilie-toi avec Itas. Martin, la tête basse, ça a été précisément son mensonge, je suis en pleine communion de pensée avec toi. Bon, parfait, ça y est, les priscillianistes, tu pourras y envoyer tes moines là-bas, ils sont épargnés. Mais voilà ce qu'était Martin. Martin brutal, mais Martin aussi humain, et ne voulant pas user de la force, et de la force brutale, et ne voulant pas faire couler le sang. Voilà, alors, en réalité, par ces actes, j'ai pratiquement fini, si vous me laissez encore une toute petite minute, je vais vous montrer un autre épisode de Martin à la cour de Maxime. Maxime invite Martin à dîner. Première chose, non, je peux pas accepter ton invitation à dîner. Pourquoi tu me vexes? Mais non, tu as fait couler le sang de ton prédécesseur qui s'appelait Gratien, qui était quelqu'un de très bien. C'est toi qui l'as fait assassiner, je ne peux pas inviter. Mais non, ce n'est pas moi qui l'ai fasciné, mais non, bon. Dans ce cas, j'accepte, puisque tu me jures que tu n'as pas fait assassiner ton prédécesseur, c'est très bien, j'accepte ton invitation à dîner. Là-dessus, pendant le dîner, on sert du vin, on donne la coupe à l'empereur. L'empereur, sans y boire, passe la coupe à Martin, l'hôte de Marc. Martin y boit et aurait dû, selon toutes les convenances qu'il connaissait très bien, rendre ensuite la coupe à l'empereur. Mais il passe la coupe à un prêtre qui se trouvait juste à côté de lui. Et l'empereur, pourquoi ne m'as-tu pas rendu la coupe? Eh bien, parce que celui qui tient tous les jours le Seigneur entre ses mains est plus digne que toi d'avoir les honneurs. Et l'empereur ne s'est pas fâché. Bon, il avait de la patience. Bon, mais tout cela pour montrer que Martin voulait ainsi marquer non pas sa supériorité personnelle, mais l'éminente dignité du sacerdoce et l'éminente dignité de l'épiscopat. Par conséquent, je crois que là aussi, et c'est là-dessus que je vais terminer, nul besoin d'épiloguer pour se rendre compte que là aussi, Saint Martin doit être un modèle et un modèle pour notre époque. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention.
C'est un résumé, et en plus du livre, il ne me l'a pas dit, monsieur le professeur, il a également fait un livre où il y a une pièce de théâtre sur Clovis. Ah, oui. Il faut que vous en parliez un petit peu, ça.
Ah ben, effectivement, voilà, je peux vous, si vous voulez que je rajoute un petit quelque chose. Saint-Martin, je vous en ai dit quelques mots ce matin, mais je peux vous les rajouter. Est certainement à l'origine du baptême de Clovis. En fait, Saint-Martin est mort 100 ans, pratiquement, 100 ans pratiquement juste, avant le baptême de Clovis. Mais ce que l'on sait, c'est que, avant même sa conversion, Clovis avait le plus grand respect pour Saint-Martin. Je dis respect, et c'est à la suite probablement d'un voyage à Tours, encore que ce soit peut-être simplement à la suite d'une visite dans une église Saint-Martin de Reims, que Clovis a pris la résolution ferme et définitive de se faire baptiser. Ensuite, après la bataille de Vouliers, Saint-Martin, revenant vers Paris, où désormais il habitait, Clovis est passé par Tours, c'était son chemin normal, puisque Vouliers est tout près de Poitiers, et à Tours, il a prié, il était déjà converti, il était déjà baptisé à ce moment-là, il a prié sur le tombeau de Saint-Martin, il a doté richement l'abbaye de Saint-Martin à Tours, et c'est là aussi que Clovis a reçu, c'est à cette occasion-là que Clovis a reçu le titre de consul de la part de l'empereur romain d'Orient, puisqu'il n'y avait plus l'Empire romain en Occident, de l'empereur romain de Constantinople. Après la mort de Clovis, sa femme, sa veuve Clotilde, a tenu à passer tout son veuvage à Tours. Et c'est à Tours qu'elle est morte. Elle a été enterrée à Paris, mais c'est à Tours qu'elle est morte parce qu'elle voulait rester tout le reste de son existence auprès du tombeau de Saint-Martin, à faire pénitence et à mener une vie à la fois de pénitente et de recueillement. Voilà, donc, dans le baptême de la France, Saint-Martin y est certainement pour quelque chose. Voilà ce que je voulais ajouter.